Hello, je m'appelle Beverly Jo Scott. Je suis née aux États-Unis et en dehors d'être chanteuse et productrice, créatrice musicale, je suis aussi animatrice à Classic 21. Je travaille comme coach pour The Voice et je cuisine très bien. Voilà.
Classic 21, Close to You. Un podcast signé Dominique Dricot.
Bonjour, BJ.
Bonjour,
je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui. Première chose, pourquoi tu as atterri en Belgique et pas à Paris ou à Londres, où tu aurais déjà eu plus de facilité avec la langue?
Moi, je crois que c'est toujours la vie qui nous mène à gauche ou à droite.
Il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas d'hasard. Voilà. Il n'y a que l'hasard. Il n'y a que l'hasard. Moi, j'ai suivi quelqu'un jusqu'ici en Belgique. Au départ, je n'avais pas les moyens de partir. Et puis, par la suite, je n'avais pas le désir de le quitter. Donc, c'est comme ça. C'est les histoires de la vie.
Bien, c'est marrant parce que, ne m'en veux pas, mais je pense quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains qui savent où est la Belgique. Hein. Déjà, la France, c'est limite.
Moi, je ne savais pas où c'était avant d'y arriver. Et même en arrivant, je n'étais pas vraiment très certain où je me situais. Mais bon, voilà, ça, c'était vite réglé.
Je ne suis pas fort en calcul, mais d'après mes calculs quand même, tu devais avoir plus ou moins 10 ans au moment de Woodstock, donc forcément, ça ne te parlait pas. Imaginons que d'un coup de baguette magique, je peux t'emmener là-bas comme chanteuse, comme interprète, comme musicienne. Tu te retrouves sur la scène toute seule ou tu aimerais accompagner quelqu'un ou un groupe?
Non, je probablement... Fou. C'est que moi, je n'ai pas le rêve de Woodstock comme la plupart des gens.
Et des Européens
rêve,
déjà.
Voilà, oui, et c'est le rêve d'être... moi, j'aurais préféré le Monterey. Ça aurait été plus préférable.
Pourquoi?
Je crois que c'est juste que... Après d'avoir appris comment ça s'est déroulé au Woodstock, ça déchante énormément. Ça a dû être un boxon pas possible et pas du tout évident pour les artistes. Monterey me semble quelque chose de plus musical et moins beau, moins...
Moins de boue déjà.
Il y a le boue, mais il y a aussi juste le... Peut-être le respect pour les musiciens, c'était un petit peu... C'est parfois ces histoires de peace and love, c'était... C'était une tendance, c'était une sorte de marque de fabrique et il n'y avait pas toujours de peace et love. OK, ça aussi, c'était doutable.
D'accord. Et de manière générale, tu préfères jouer dans des petites salles ou tu rêves, je ne sais pas moi, de remplir Wembley, par exemple?
Non, je ne rêve pas du tout de remplir Wembley. Je ne rêve même pas de remplir Forêt Nationale. Je n'ai jamais eu les grands rêves comme ça. Je trouve que c'est... Parce que j'aime jouer. J'ai déjà fait les énormes salles quand j'étais en tournée en dehors de la Belgique. Vraiment, j'ai fait l'Olympia à Paris deux fois. J'ai fait les Zéniths. J'ai fait tout ce genre de trucs. Mais j'aime jouer. J'ai envie de faire plus de concerts parce que quand tu fais tout en une fois... J'ai rempli Forêt Nationale, ben voilà. Moi, j'aurais bien rempli plein de petites salles, beaucoup, parce que j'adore chanter.
Bien. Question qui me turlupine depuis longtemps, c'est cette fameuse histoire de Jean Balthazar. C'est venu comment? Qui a contacté Guy? C'est Arnaud qui t'a contacté ou c'est
l'inverse? Non, pas du tout. C'est 100% une idée de moi et de Michel Gudanski.
Waouh!
Il y a beaucoup de monde qui croit que c'est Arnaud qui m'a... amené l'idée, mais c'est absolument fou. C'est Michel et moi qui cherchaient une idée, une sorte de... À l'époque, on appelait ça un medley. On appelait pas ça encore un mash-up. Donc, on cherchait quelque chose d'anecdotique, espiègle. Et on a tombé tous les deux assez rapidement sur cette ligne de basse qui nous a mené... sur cette idée-là, quoi. Et on a proposé à Arnaud, qui trouvait ça très, très amusant. Et à partir de là, quand il a dit oui, ben voilà, c'était parti, quoi.
Ça veut dire aussi que toi, tu avais perçu que David Bowie, ben, il s'était servi chez Jacques Dutronc.
Moi, j'ai aperçu que les deux se sont servis plus des bluesmen blacks des États-Unis. Donc, cet argument a été vite réglé aussi entre moi et l'éditeur... publisher de de Jacques Dutronc à l'époque, je l'ai eu au téléphone et très, très poliment, je lui ai expliqué qu'il n'y a ni un ni l'autre qui avait inventé quoi que ce soit.
Donc l'affaire était réglée.
C'était réglé très vite, en 5 minutes.
C'était un tube, mais est-ce qu'il a eu l'impact qu'il aurait mérité? Moi, j'ai toujours, dès que je l'ai entendu, je me suis dit ça va cartonner presque dans le monde entier, et j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas.
En fait, ça passe toujours sur les différentes plateformes, que ce soit en Suisse, en France, et ici en Belgique, que ce soit les deux côtés, que ça se passe dans les deux communautés. Donc, moi, je suis très satisfaite avec le succès que ça a eu. Et on a même qui disent que c'était grâce à ce titre qu'Arnaud s'est fait repérer au-delà de Paris, en France, parce que ce morceau a très fort marché en France.
Avec un bon accent bruxellois, hein, quand même.
Oui,
c'est sûr.
Il y en a qui disent, c'est pas moi qui le dis.
Bien sûr. Est-ce que, de manière générale, tu as eu jusqu'à présent la carrière musicale que tu méritais ou pas?
Oh là là, le mot mériter, qu'est-ce qu'on mérite, nous, en dehors d'une vie tranquille? Je sais pas, est-ce que j'ai eu ce que mérité? C'est un drôle de formule, je crois, Dominique, parce que franchement, moi, j'ai une culture et une éducation qui on mérite que ce qu'on cherche. Tu vois, et moi, je trouve que tout mon parcours, avec les hauts et les bas, est parsemé de moments magiques, comme des moments de regret, comme n'importe qui, c'est ça la vie. Et évidemment, j'aurais bien aimé être plus connue, mais j'ai vécu tellement des trucs qu'une petite fille d'Alabama n'aurait jamais imaginé vivre. Donc voilà, qu'est-ce que je vais dire, moi? I did it my way.
Sure. Parlons de l'Alabama, justement. C'est extraordinaire parce que je viens peut-être avec un cliché d'Européen, mais ce n'est pas l'État le plus démocrate, même pas démocratique des États-Unis, hein, par rapport à d'autres, comme par exemple la Californie. C'est ton combat de rebelle était encore plus difficile, j'imagine, en Alabama que dans d'autres États.
Je crois qu'une fois de plus, c'est toujours une question d'entourage, l'éducation, la mentalité de tes parents et de ton entourage d'adultes quand tu es en train de faire tes premiers pas dans la vie. Et Alabama n'était pas vraiment, très ouvert d'esprit, disons.
Et ça va mieux?
Ça va mieux. On a toujours les mêmes problèmes chez les mêmes gens. Les extrêmes d'un côté à l'autre de le racisme, mais il y a ça partout. Je crois qu'on commence à essayer de faire des pas en avant, mais c'est un pas en avant, deux pas en arrière, donc c'est très, très difficile. Je vois le droit qui monte partout dans le monde, donc finalement, je ne sais pas si tout le monde se rend compte à quel point on perd de l'énergie et les moyens d'avancer ensemble dans cette espèce de tourbillon d'incompréhension. I don't know. I never understood it. Et j'ai toujours eu des problèmes depuis toute petite parce que j'aimais tout le monde. C'était dans ma nature.
Allez, on va aborder un sujet un tout petit peu plus léger. Elle vient d'où, cette passion pour la pêche?
Ben voilà, j'ai tombé dedans quand j'étais petite, c'est sûr. Nous, dans ma famille, comme beaucoup de familles dans le sud des États-Unis, on commence à pêcher à partir de 3-4 ans, quoi. Première canne.
Chez nous, on apprend à faire du vélo et vous apprenez à
ben
pêcher.
Ben voilà, ça fait partie de la culture, vraiment, ça c'est sûr. So, mes petites filles, je les ai appris, même chose, la pêche et le lancer de filets de pêche et tout ça. À partir de 3 ans, on leur donne une petite mini-canne. 3-4 ans, et puis bon, ça continue. Ça fait partie de notre vie, quoi. Donc, ça a resté un passion pour moi et mes sœurs, ma fille et mes petites filles. On pêche tous ensemble. Il y a les gens qui font... qui vont, je ne sais pas, faire le shopping ou whatever. Nous, on prend nos cannes et on va à la mer.
Tu as lu Le vieil homme et la mer?
Plusieurs fois. J'aime vraiment bien. Je trouve que cette histoire est extrêmement représentative. Est-ce que c'est un mot, ça? Ça représente beaucoup, je crois, pour les aventuriers et les gens qui posent des questions. Mais ce qui fait que poser les questions sur la vie et le grand rêve d'avoir cette gros poisson, tu vois, ça c'est son grand rêve et que finalement les aliments, la vie en lui-même grignote et la plus rien à la fin que les os. Et puis ta réflexion dans une toute petite bateau, ça c'est très symbolique. Très symbolique. Ça veut dire beaucoup pour moi, évidemment.
Mais tu aimes bien, de manière générale, Hemingway?
I love Hemingway. Tu peux pas vivre dans le sud, en tout cas de mon époque. J'ai un frère, un demi-frère, qui vit à Key West. Alors c'est évident, quand je vais là-bas, je trimballe en regardant à gauche, à droite, et en imaginant comment c'était à l'époque de Hemingway. Très important. Fabulous writer. Comme beaucoup, beaucoup d'écrivains du sud des États-Unis, Truman Capote ou William Faulkner, la liste est longue, Tennessee Williams, c'est tout, j'ai fait mes dents, Eudora Welty, I could go on forever.
J'imagine. Lui, il n'est pas du tout du sud, il est même de New York. Si tu aimes l'humour juif new-yorkais, je te conseille Kinky Friedman.
Oh, Kinky, yeah, sure.
Tu le connais?
Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai travaillé avec les gens qui étaient proches de lui. En Allemagne.
Il est drôle, hein?
Yeah, he was very funny. Il était terrible. Oui, vraiment. Ouais, ouais.
Je suis bien d'accord. Et il a été, je pense, bassiste dans les tournées de Bob Dylan.
Ça, c'est possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas tout sur Mr. Friedman, sauf qu'il était drôle et qu'il adorait l'Europe.
Tout à fait autre chose. Un jour, je t'ai croisé aux 24 heures de Spa. À minuit, le samedi, comme une vraie race fan. Et tu m'as dit, ouais, j'adore suivre la course. Tu m'as dit ça, hein, je n'invente rien. J'adore suivre la course et j'aime bien les Bentley. Moi, j'étais scié. Mais t'aimes vraiment le sport moteur ou c'était vraiment le hasard? T'avais été invité.
C'était pas hasard et en plus, j'aime ça, quoi. J'aime le sport en général. Je ne suis pas un aficionado au point où je peux donner les noms. Et tous les résultats et tout le parcours, je ne suis pas comme toi, quoi. Mais je t'écoute souvent.
Merci.
Donc, heureusement que tu es là. Mais j'ai toujours connu ça aussi. Nous, on avait les dirt tracks, tu vois. C'était les terres battues chez
Val,
nous.
Hein, oui.
Donc, on a tous goûté. On avait un petit ami, un copain, un cousin, mon frère. On avait toujours les bagnoles à 5 balles aux États-Unis à la belle époque. Et on tournait en rond sur les dirt tracks. Et tu apprends à aimer ce sport. Par la suite, j'ai eu la chance de un petit peu trimballer à gauche, à droite dans les paddocks ici en Belgique. Être dans les voitures avec les pilotes et même piloter dans une course aux États-Unis sur le Laguna Seca.
Wow.
And it was fun. It was a lot of fun.
Pas n'importe quel circuit, hein?
No, I made it. I made the hairpin, man. Le corkscrew.
Ah oui, terrible. Bien.
It was great fun.
Ah, ouais. Et quand t'es aux États-Unis, tu roules avec quoi?
Oh, bah, j'ai ce que j'ai sous la main, quoi. Franchement, pour le moment, c'est juste les bagnoles deuxième main que j'ai payé quelques milliers de dollars. Et ça, parfois ça roule et parfois ça roule pas, mais j'ai la chance d'être mariée à un garagiste qui adore le motorsport. C'est surtout lui. C'est surtout lui qui me gare sur la route.
C'est bien. C'est, quand on achète une voiture de deuxième main, c'est mieux d'avoir un garagiste à portée de
surtout,
téléphone, c'est sûr.
Surtout avec moi.
Moi, quand j'étais gamin ou adolescent, il y avait une véritable vénération de la part de ma génération pour les Américains. C'était terrible. En Belgique, moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, j'ai rencontré un Américain, c'était quelque chose de magique. Ça a beaucoup changé, en tout cas dans la mentalité en Belgique. Est-ce que tu ressens, toi, est-ce que tu ressens de la fierté pour ton pays ou parfois tu as honte?
C'est les deux. Je suis très, très fière pour les bonnes choses qui viennent de chez moi.
Comme quoi?
Voilà, la musique, rock and roll, cette attitude de bon enfant dans les concerts, de partager beaucoup, beaucoup de bonnes choses ensemble. La musique a une intégrale partie dans la vie des Américains, mais partout il y a la musique. Everywhere, everywhere. surtout dans le sud, je reviens toujours avec ça, mais quand même, il y a Chicago, Californie. Et je trouve qu'on a su apporter quelque chose, particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale, qui a donné un peu d'espoir, un peu de neuf, un peu d'air frais. Bon, qui a, pour le moment, il devient stagnant.
Oui, c'est vrai. Et parfois, t'as honte, oui. Pour la politique, etc.
Oui, la politique est aussi une mentalité. Je vais revenir sur la musique, là. C'est qu'on a mis trop d'importance sur le succès et pas assez d'importance sur la substance, sur le contenu d'un travail d'artiste. Donc, il y a beaucoup d'artistes américains, par exemple, et du rock très américain qui sont un peu perdus, qu'on n'entend pas parler ici parce qu'ils ne sont pas remplis 5 stades de 10 000 personnes, tu vois. Je crois que ça, c'est probablement un vrai problème que la mentalité américaine, ils commencent à faire une coque en sucre, tu vois. Et à un moment, quand les temps sont durs, ça fond et puis on voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas si beau que ça, quoi.
Qui va gagner en novembre, le vieux monsieur qui perd ses knick-knacks ou l'escroc?
Je préfère, moi, avoir quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus âgé, qui de temps en temps a des...
Les trous de mémoire.
Il y a les trous de mémoire, les faillances peut-être, on peut dire, parce qu'il y a quand même une immense sagesse derrière ça. Donc je trouve que c'est pardonnable. Et en plus, il s'est super bien entouré. Donc je préfère ça qu'un crétin qui sème la merde. Je suis désolée, je vais le dire. je n'ai pas d'amour du tout pour Donald Trump. J'ai vraiment... Mais j'ai dur de haïr, mais là, ça coule à flot.
À mon avis, tu n'es pas la seule. Dernière question, juste pour le fun. On disait de Jane Birkin qu'elle entretenait cet accent... Est-ce que c'est aussi ton cas ou est-ce que tu réfutes ça?
Je répète ça tous les jours, quoi. Je suis là, le soir, je demande à mon mari, est-ce que j'ai assez d'accent américain encore? C'est important. Sinon, non, mais en plus, je ne sais pas quel accent les gens veulent que j'aie, parce que je peux prendre l'accent wallon. Quel accent est-ce qu'on veut ici en Belgique, pour être honnête? Jane Birkin, qu'elle a entretenu, ça, j'en ai aucune idée. Moi, je crois qu'on est qui nous sommes, mais bon, j'ai l'accent. Est-ce que c'est vraiment grave?
C'était sûrement pas.
Je suis trop paresseuse pour entretenir quoi que ce soit, mon vieux.
Merci.
Classique 21, Close to You. Un podcast signé Dominique Dricot.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.